Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Que pouvait-on signaler d'étrange dans cette ville française, jadis, ou naguère ? Des messes lucifériennes, des phénomènes supranormaux, observés parce qu'attendus, espérés. Un médecin qui n'a pas d'objection au dédoublement, qui se produit la nuit, d'une jeune femme. Non, aux réincarnations diverses. L'évocation d'un homme qui assomme sa femme après 5 semaines de mariage, un jeune chef d'orchestre que l'on suppose être la réincarnation de Franz Liszt, etc., etc. Oui, dans cette ville, naguère, ou jadis, c'était le 17 mars 1954 sur la chaîne parisienne, cette ville française, c'était évidemment Lyon.
Le monde comme il va. La radiodiffusion et télévision française présente Lyon, ville secrète par Samy Simon.
La semaine dernière, j'ai tenté de faire revivre ici quelques-uns des aspects traditionnels de la grande cité rhodanienne, capitale de la soie et de la gastronomie, temple du travail, conservatoire du goût et de la qualité française, toutes choses qui lui ont valu depuis des siècles une juste renommée dans le monde. Je voudrais ce soir aborder un aspect moins connu ou mal connu de Lyon et qui en fait, à certains égards, l'une des plus étranges parmi les grandes cités modernes. Je veux parler de ce lion qu'on ne trouve pas dans les guides, le lion du mysticisme, de la magie, des sciences occultes et des sectes bizarres. Celui où subsistent toutes les hérésies, comme l'écrivait Joris Karl Huysmans dans son livre fameux « Là-bas » et qui a suscité une nombreuse littérature, la meilleure et la pire. Il est de fait que de tout temps, le mysticisme a trouvé dans Lyon un mystérieux foyer d'élection. Et que d'innombrables courants religieux, philosophiques, ésotériques, dont certains très importants, prirent naissance dans cette ville. C'est à Lyon, en effet, pour m'en tenir à quelques exemples, que Pierre de Vaux fondait au XIIe siècle la secte fameuse des Vaudois, proche de celle des Albigeois, qu'un Nostradamus, un Agrippa et toute une dynastie d'astrologues italiens et de mages de la Renaissance trouvèrent leurs plus fidèles disciples. Au XVIIIe siècle, les loges maçonniques s'y comptaient par centaines. Le martinisme y fit de nombreux adeptes. Cagliostro y établit sa loge mère de la sagesse triomphante et le culte du saint-simonisme y brilla d'un éclat particulier. Et Lyon est peut-être la seule ville de France où l'on compte encore une poignée de jansénistes qui, désertant l'église, disent les prières de la messe en famille le dimanche, en français, et suivent l'ancien rite lyonnais importé d'Orient par les premiers chrétiens qui s'installèrent et firent souche dans la capitale des Gaules. C'est à Lyon, qu'il nommait la ville sainte, que vécut en exil au milieu de ses apôtres le fameux messie italien David Lazaretti, qui se proclamait la seconde incarnation du Christ. C'est encore à Lyon que vécut et mourut en 1875 le fameux prophète Vintras, fondateur de la religion du Carmel d'Élie, dont le successeur et l'héritier, l'abbé Boulan, défraya la chronique scandaleuse par ses pratiques de sorcellerie, d'envoûtement et de messe noire. Cet abbé Boulan que l'écrivain Huysmans, que j'évoquais tout à l'heure, a fait revivre dans son livre « Là-bas » sous le nom de docteur Johannes. Lyonnais également, cet étrange Philippe, thaumaturge et guérisseur, qui rallia autour de lui des centaines de disciples venus des quatre coins d'Europe, et qui, avant Rasputin, fut l'un des conseillers les plus écoutés de l'impératrice à la cour de Nicolas II. On assure même que c'est grâce à ses pouvoirs magnétiques que la tsarine put donner le jour au tsarevitch. Philippe est mort à Lyon, en 1905, et aujourd'hui encore, de nombreux malades se rendent en pèlerinage sur sa tombe pour demander au maître la guérison de leurs maux. C'est encore à Lyon, où il mourut en 1934, il y a tout juste 20 ans, qu'exerça son influence dans les milieux de l'occultisme le nommé Jean Bricot, qui sous le nom de Jean II devint le chef suprême de l'église gnostique. Enfin, c'est à Lyon qu'est né et qu'a vécu le célèbre Allan Kardec, le père du spiritisme moderne dont se réclament tous les spirites de France et qui écrivait il y a près de 100 ans « Lyon, qui a été la ville des martyrs, fournira des apôtres au spiritisme et si Paris doit en être la tête, elle en sera le cœur. » Tout cela montre bien, je pense, la permanence à travers les siècles et la vigueur de ce courant mystique lyonnais. Et si aujourd'hui, sorciers, magiciens et adorateurs du diable n'y existent plus qu'au titre de spécimens attardés d'une espèce en voie de disparition, de curiosité scientifique, par contre, les sciences occultes, le spiritisme, le métapsychisme y occupent toujours de nombreux esprits, soi-disant jeu de mots, et parfois non des moindres. Et ici, je voudrais laisser la parole à quelques-uns d'entre eux que j'ai eu la chance d'approcher récemment et qui ont abordé ces problèmes devant le micro en toute franchise. Et d'abord, à l'une des personnalités les plus attachantes de Lyon, le docteur Lecard, fondateur et directeur pendant plus de 40 ans du laboratoire de police technique de Lyon, et qui est ce que j'appellerais un sympathisant éclairé. Sur les choses de l'occultisme et sur la vie spiritualiste lyonnaise, il est l'homme qui sait tout ce que l'on peut en savoir, et même un peu plus. Écoutez-le.
Je ne crois pas qu'il soit très juste, comme on le fait toujours, de considérer Lyon comme une ville exclusivement composée de mystiques. Je sais bien que le manteau de Fourvière s'étend sur le reste de la ville, mais tout de même, la mysticité ne comporte pas nécessairement le crime, tant s'en faut.
Non, heureusement.
Il est certain que j'ai connu un certain nombre d'individus qui avaient l'intention de mal faire et qui voilaient leurs mauvaises intentions sous le voile de la mystique. J'ai connu, par exemple, aux environs du parc de la Tête d'Or, un homme qui enfonçait des aiguilles dans des poupées en cire, comme on voit dans les drames du père Dumas, et pour la modique somme de 40 sous, il vous annonçait la mort de votre belle-mère ou celle d'un voisin qui faisait trop de bruit. Je dois reconnaître que la clientèle ne revenait pas parce que la méthode n'était pas très bonne.
C'était celle de la magie noire, cependant.
C'est proprement la magie noire. J'ai connu l'autre part, et très bien, cet admirable Philippe, qui lui était pour de bon un sorcier, qui a eu, entre autres clients, le malheureux tsar et l'empereur d'Allemagne, l'empereur allemand, Guillaume II. Mais celui-là faisait des cures miraculeuses. J'ai vu chez lui des femmes qui venaient le consulter, non pas pour elles-mêmes, mais pour leur mari. Et avec des paroles magiques et des herbes, il guérissait les femmes, premièrement de l'ivrognerie de leur mari, et deuxièmement de l'habitude qu'ils avaient de les tromper. Il y a très peu de mes confrères médecins qui soient capables d'en faire autant.
Je pense.
J'ai assisté, et nous rentrons en plein dans votre sujet qui est la mystique, j'ai assisté à une des dernières, je n'ose pas dire la dernière, messe luciférienne qu'on édite à Lyon, dans le quartier du Palais de Justice, dans le quartier Saint-Jean. Il y avait là un malheureux prêtre, miséreux, qui est mort de faim d'ailleurs, et qui consacrait des hosties, qui distribuait une douzaine de fidèles, il leur remettait de la main à la main et on emportait ses hosties pour les poignarder. Je vous signale un détail pour ceux qui nous écoutent et qui ont le sens de la religion catholique, c'est que comme on disait la messe à l'envers et qu'on donnait la communion avant la consécration, les hosties en réalité n'étaient pas consacrées. Absolument. Et par conséquent la clientèle était volée.
Et à Lyon, en tout cas, il y a toujours une vie occulte active, oui, et nombreuse.
Il y a une vie occulte très abondante et d'ailleurs parfaitement respectable, des théosophes et des spirites qui ont, je ne peux même pas dire leur religion à eux, car un grand nombre d'entre eux sont catholiques et catholiques pratiquants, d'autres sont protestants, et ils trouvent moyen de cumuler leur spiritisme avec leur religion officielle. Car enfin, tout ça consiste à croire à l'existence de Dieu et à la survie de l'âme. Par conséquent, ils ne sont pas tellement éloignés des doctrines orthodoxes. Et c'est assez touchant de voir des gens qui ont un métier, qui ont une profession, et qui tout de même trouvent le temps de s'occuper de ces questions de métapsychie et de ces questions, somme toute, de théologie et de théodicée, et qui ont fait, n'ose pas dire des découvertes, mais enfin des constatations intéressantes et qui continuent à faire de l'expérimentation.
Qui justifie cette réputation de Lyon, ville de l'occultisme et ville du mystère.
Ça a toujours été la ville des petites religions. J'ai connu, quand j'étais jeune, il y a extrêmement longtemps, un monsieur qui, dans la journée, payait des coupons au guichet du Crédit Lyonnais et qui, le soir, disait des offices avec des costumes vert, pomme, violet et orange qui étaient tout à fait impressionnants et qui faisaient de très beaux sermons. Eh bien, il avait là un groupe d'une vingtaine de personnes et puis il nous reste le souvenir du Sarpelladan qui était d'origine lyonnaise. Il y a eu, il y a encore à Lyon, des Rose-Croix qui sont partisans de la fameuse devise « la croix, tout ce qui souffre, et la rose, tout ce qui est beau », et parmi lesquels il y a des esthètes qui sont extrêmement distingués.
Vous avez, je crois, personnellement connu Péladan.
J'ai eu cet honneur, j'avais une grande admiration pour lui. Il avait une très belle chevelure frisée, une très belle barbe et beaucoup d'esprit. Mais il était un petit peu persuadé de sa grandeur, et je me rappelle qu'il m'a lu un jour un mandement qu'il envoyait au Saint-Père et qu'il manquait complètement de respect.
Le docteur Jonquière est un fervent métapsychiste, et il n'est guère de réunion spiritualiste à Lyon à laquelle il n'apporte son concours et l'appui de son éloquence. Je l'ai saisi au vol au sortir d'une conférence qu'il venait de faire devant une nombreuse assistance sur les phénomènes de précognition. Et ce n'est certes pas lui qui s'inscrira en faux contre la vocation spiritualiste lyonnaise.
Il est exact que Lyon est une ville très spiritualiste. Et je pense que la raison vient de ce que le grand apôtre, le grand créateur du spiritisme a été Allan Kardec. Allan Kardec est né à Lyon. Mais en dehors d'Allan Kardec, il y a eu d'autres personnages ici. Et je ne citerai par exemple que le maître Philippe, dont les réalisations ont été remarquables et inimaginables. Il y a d'ailleurs une infinité de groupes particuliers qui s'étagent très souvent sur la colline de la Croix-Rousse. Il y a même eu un centre où on faisait apparaître le diable.
Oui, on a parlé de messe luciférienne.
C'est exact.
Qui se pratiquait ici
c'est exact.
Couramment.
C'est exact, mais il y aurait à expliquer. En réalité, ça n'est certainement pas le diable qui venait, mais quelque esprit mauvais.
Et alors, ce qui est intéressant avec vous, docteur, c'est que vous êtes un homme de science. Alors, j'aimerais savoir comment, à la fois, vous pouvez concilier cette croyance profonde qui est en vous de l'existence des esprits, de phénomènes supranormaux, et l'examen quotidien que vous faites de notre pauvre humanité, mais sur le plan physique.
Je fais ce qu'a demandé Alexis Carrel. Je cherche à comprendre. Quand je le puis, j'expérimente, je cherche les fraudes qui peuvent se faire, car il y en a, bien entendu, et à cet égard, j'en ai démasqué un certain nombre. Mais tout de même, à côté de ces fraudes, il y a des choses vraies qui sont absolument contrôlables.
Oui, et au nombre de ces choses vraies et contrôlables, il y a évidemment les matérialisations.
Oui, et dans l'une d'elles, j'ai eu toute autorisation de contrôle.
Il s'agissait d'une représentation...
C'était une femme, une jeune fille, qui était morte quelque temps auparavant, et les gens qui se trouvaient à côté de moi l'avaient parfaitement connue. Il y avait même la mère qui était là aussi. Toute idée de supercherie doit être écartée.
Et elle se présentait sous une forme physique très concrète.
Tout simplement. Sauf la tête qui était entourée d'une écharpe. Et j'ai pu tâter cette tête. Je puis affirmer qu'il n'y avait pas de nez. Elle parlait, celle-là. Il y en a qui ne parlent pas. Et je connais des cas de dédoublement. Je les connais à Lyon, d'ailleurs. J'en connais. Et c'est une chose très curieuse. Parce que l'individu qui se dédouble se rencontre parfaitement qu'il est dans un endroit et voit son corps ailleurs. Il n'y a là rien de pathologique. C'est tout simplement, alors là il faudrait parler un petit peu comme les occultistes, dire que le plan astral chez eux n'est pas soudé au plan physique. Je connais une jeune femme, mariée depuis peu, qui à ce moment-ci est harcelée par ce phénomène de dédoublement qui se produit surtout la nuit. Elle a une angoisse épouvantable parce qu'elle a toujours peur de ne pas pouvoir rentrer en elle-même.
Et en ce qui concerne le problème de la réincarnation, est-ce que là non plus le biologiste, le physiologiste, enfin le médecin et l'homme de science n'a pas d'objection à opposer à cette croyance ?
Évidemment, c'est une croyance très particulière, celle-là. Elle remonte à l'origine du monde. Et à l'heure actuelle, il y a peut-être 800 millions d'individus qui y croient. Le christianisme primitif y croyait aussi. Ce fut peut-être une faute de le supprimer, car elle donne la clé de pas mal de choses. Il est certain que le passé, le présent et le futur, si on réfléchit bien, sont sur un même plan.
Monsieur Fangautier est un honorable industriel lyonnais qui, depuis près de 40 ans, est un fervent du spiritisme. Au cours d'une conversation devant le micro, qui fut plutôt, à vrai dire, un long monologue, il a bien voulu, en toute franchise et en toute liberté, me faire part de certaines expériences fort curieuses dont il fut le témoin ou que même il a souvent suscité lui-même. Dans cette interview, il fut longuement question de conversations poursuivies au-delà de la mort par l'intermédiaire d'un médium avec un certain nombre de personnalités fort connues du monde des arts ou du sport et la plupart mortes tragiquement au cours de ces dernières années. Pour des raisons que chacun comprendra, il ne m'est pas possible ici de faire entendre les déclarations de M. Fangotier relatives à ces communications, quelque captivantes qu'elles puissent être, je me bornerai donc à vous donner quelques passages ne mettant en cause que des personnes anonymes. Je le ferai en toute objectivité, sans vouloir en rien chercher à influencer le jugement de l'auditeur, qui selon ses propres tendances, sa philosophie, ses croyances, sera libre de sourire de ses propos, ou au contraire, d'y trouver encouragement, consolation ou espoir.
Ce que je vais dire va probablement troubler pas mal de personnes. Les âmes débarrassées de leur corps retrouvent le monde invisible. Et là, je puis assurer par de longues expériences que les âmes n'ont pas de patrie. Et chose plus grave encore, elles n'ont pas de sexe. Il y a ici, près de Lyon, vers Givors, Célestin Chabal, qui a assommé sa femme, Yvonne, après 3 semaines de mariage. Ce drame m'a troublé, comme beaucoup d'autres, et j'ai voulu contacter Célestin Chabal, qui, après son crime, il était employé à la SNCF, a gagné le maquis, c'est-à-dire le massif central dans les forêts. Je le contacte à peu près 3 jours après, et c'est par lui-même, en le faisant visionner sa vie passée, son antériorité, j'apprends qui était Célestin Chabal et qui était sa femme Yvonne. Voici l'histoire. Nous sommes encore à l'époque napoléonienne, au moment où les Français luttaient côte à côte avec les Italiens. On se dispute, il y a des querelles, on se bat. Finalement, un Français tue un Italien. Nous retrouvons l'Italien qui est devenu Célestin Chabal et nous retrouvons le Français qui a tué, qui est devenu Yvonne Chabal. On pourrait croire, n'est-ce pas, que cela est impossible. Cependant, suivez-moi quelques secondes. De l'autre côté, il y a de l'autocritique et on montre à l'homme les moyens de se racheter ou de réparer ses sottises. Un des meilleurs moyens qu'emploient nos guides spirituels, c'est de projeter sur notre plan physique les deux adversaires comme mari et femme. C'est ce qui s'est passé pour Célestin et pour Yvonne. Car, généralement, ça réussit au moins 9 fois sur 10, c'est-à-dire que dans le mariage, dans la cohabitation, dans les étreintes passionnelles, on partage ses joies, on partage ses peines, ses douleurs, ses souffrances, et là, dans le creuset de la famille, se brûlent tout à fait les scories de la haine et de la vengeance. Il serait possible ainsi de vous raconter, non pas des histoires, mais des expériences que je poursuis depuis 20 mois, et j'en suis à plus de 200 dossiers.
Mais voici qui paraîtra à certains d'entre vous peut-être plus étrange encore. Il s'agit du jeune chef d'orchestre Roberto Benzi, dont la baguette prestigieuse lui a valu dans le monde, comme on sait, une fulgurante et juste renommée.
Nous avons été vivement intéressés dans nos milieux par cet enfant précoce, cet enfant phénomène. Il a soulevé l'enthousiasme des foules. Nous nous y sommes donc intéressés et tout dernièrement, et voilà comment.
Ici se situe une conversation à travers la mort, entre mon interlocuteur et une personnalité artistique disparue il y a quelques années et dont, par respect pour les siens, je tairai le nom.
Est-ce que vous vous êtes rencontré avec Roberto ? Oh, mais bien sûr ! Nous étions à peu près dans toutes les capitales ensemble. Et qu'en dites-vous ? Oh, il est merveilleux. C'est un prodige, c'est un phénomène. Mais voudriez-vous savoir pourquoi ? Puisque maintenant, vous avez l'occasion qui s'offre à vous. Mais oui, mais comment faire ? Eh bien, je lui dis, vous allez voir sa vie passer, comme vous avez vu la vôtre. Ah, c'est pas possible. Attendez.
Au bout d'un instant, elle voit un autre grand musicien. Elle me dit, oh, mais c'est lui, mais je le reconnais, mais c'est Liszt. Et vous reconnaissez bien Liszt. Oh, pensez-vous, je ne l'ai jamais vu parce qu'il n'est pas de mon temps. Mais on l'a tellement montré dans des photos. Puis enfin, j'ai joué, n'est-ce pas, de ses compositions. Je connais sa musique.
Vous avez bien entendu, Roberto Benzi n'est autre que Franz Liszt. Franz Liszt, le génial pianiste, miraculeusement réincarné dans le corps du jeune prodige. Mais voici mieux encore, et c'est la conversation qui va se dérouler à présent entre mon interviewé et Roberto Benzi lui-même, toujours par l'intermédiaire du médium.
Roberto, est-ce que vous voudriez voir votre antériorité? Ah, il dit, mais oui, nous recommençons, et lui-même, il reconnaît Liszt. Mais alors, c'est une admiration, c'est un enthousiasme. Et il me dit, oh, je comprends maintenant pourquoi je suis sans cesse brutalement accaparé par des influences qui me transportent et qui m'encensent, qui me divinisent.
Et maintenant, c'est dans son propre passé que mon interlocuteur se plonge. Ce sont ses propres vies antérieures, ses propres vies successives qu'il va découvrir devant moi.
Je suis né un peu avant la Révolution en Macédoine. L'enfant d'un deuxième Liszt, famille bourgeoise, avec des possibilités, des aisances. Jeune homme, bien élevé, beaucoup de relations. Nous nous sommes avec un camarade épris d'une jeune fille. Nous nous sommes battus, je l'ai tué. De douleur, car c'était un grand ami, le meilleur pour moi, je me suis mis dans les ordres. J'ai pris la robe de bure. Ma mère en est morte de chagrin. J'ai donc vécu dans les ordres, où là déjà je recevais des observations du supérieur, car toujours je voulais aller au-delà de ce qui nous était enseigné pour tâcher de percer les mystères divins. Je me retrouve maintenant dans cette vie avec ce même état d'esprit. Lorsque je visite des monastères, et j'en ai vu plusieurs, lorsque je visite des cloîtres, et que je vois les cellules des moines, je me sens chez moi. Si bien que j'ai fait un joli projet pour le futur, c'est d'être ou un missionnaire ou un savant dans le laboratoire. Dieu verra ce qu'il peut faire de moi, je m'incline d'avance.
Mais laissons là, monsieur Fangotier, sans quitter d'ailleurs le spiritisme ni la magie pour autant. Dans quelques jours, on pourra assister en effet sur la place Bellecour, en plein centre de la ville, à des choses étranges. C'est en effet du 19 au 22 mars que le Congrès mondial des fakirs va tenir à Lyon ses assises. Cependant qu'aux mêmes dates, l'Association française des artistes prestidigitateurs y organise un grand festival international de la magie et de l'illusion. Au programme, un certain nombre de manifestations et d'expériences sensationnelles qui ne manqueront, je crois, ni de pittoresque ni d'intérêt. Mais le piquant de l'histoire, c'est que les illusionnistes, habitués cependant à vivre et à nous faire vivre dans le factice et le faux-semblant, à nous faire prendre le vrai pour le faux et inversement, à se jouer des lois de la physique et de la logique, s'instituant pour une fois les champions du rationalisme, viennent de déclarer la guerre aux fakirs, les mettant au défi d'accomplir leurs exploits sous leur contrôle et en public. Et les fakirs ont relevé le gant. Et non seulement les fakirs, mais encore les spirites, auxquels les illusionnistes, décidément gens très combatifs, s'en sont pris également. C'est pourquoi j'ai tenu à réunir, pour un court débat devant le micro, les avocats de l'une et l'autre partie, en la personne du docteur Jonquière que nous avons déjà entendu tout à l'heure, représentant les métapsychistes, et monsieur Sanslaville, président de l'Association lyonnaise des artistes prestidigitateurs, et organisateur de ce curieux tournoi.
Les fakirs disent par exemple que grâce à leur puissance surnaturelle, mettons, ils peuvent danser sur le feu, marcher sur le feu, ils peuvent se faire transpercer le corps de part en part avec des épées, etc., et faire toute espèce de prodige, et ils déclarent même que la prestidigitation n'est rien auprès du fakirisme. Et d'autre part, par la même occasion, les illusionnistes ont également défié les spirites et les métapsychistes de bien vouloir présenter des expériences au cours du Festival de la Magie.
et vous le mettez au défi de répéter devant vous, sous votre contrôle, les expériences qu'il prétend avoir faites sans aucune supercherie.
C'est exact, parce que évidemment on peut arriver à présenter des expériences qui ressembleraient étrangement à la réalité, mais faites avec des compères à l'avance. Car nous pensons que nous, illusionnistes, qui sommes passés maîtres dans l'art de connaître tous les trucages, eh bien nous serions mieux à même de déceler là où il y a supercherie et là où il n'y a pas supercherie. Nous ne voulons absolument rien nier a priori et nous proclamerons publiquement si une expérience est vraiment réelle et s'il n'y a pas possibilité de trucage. Et je pense que ce serait une base qui devrait être acceptée par tous les spirites et qu'ils devraient accepter justement notre contrôle.
Ça n'est pas la première fois que les illusionnistes veulent venir contrôler ce qui se fait en métapsychie ou chez les spirites. Il y en a plusieurs qui sont venus et ils ont été obligés de s'incliner devant ces phénomènes-là. Vous voulez les recommencer ? Vous avez parfaitement raison. Et si je puis vous aider, je le ferai de tout cœur.
Néanmoins, vous êtes quand même, vous, docteur, fermement convaincu de l'existence de phénomènes de voyance, de précognition.
Mais il y a des cas qui sont remarquables. Il serait très long d'en citer. Mais je connais par exemple le cas d'une personne qui, voulant divorcer, est allée voir une voyante. Et la voyante lui a dit, ne le faites pas, votre mari se pendra. Et il se pendra dans une étable à côté d'un bœuf. Et la chose a été parfaitement reconnue exacte 8 jours après.
Eh bien, sur ce point, nous demandons simplement à contrôler et nous pourrons juger, et le public pourra juger, puisqu'un grand référendum public aura certainement lieu à cette occasion, étant donné qu'on n'a jamais pu réunir un jury qui soit accepté d'une part par les fakirs, d'une part par les spirites et d'une part par les illusionnistes. Nous prendrons donc le grand public à témoin pour toutes ces expériences et il jugera de la réalité par un vote public.
Et il jugera sur pièce, et la pièce ce sera un fakir à demi nu, couché sur une planche à clous et sur lequel on fera passer une voiture. C'est bien
exact.
Ça.
C'est exact, également la marche sur le feu, et paraît-il un autre fakir doit se faire enterrer vivant dans un état de léthargie. Il est paraît-il resté 72 heures enterré vivant sous terre dans un état de léthargie il y a 2 ans. Il s'agit de Yama Kevadi.
Docteur, vous qui êtes médecin, vous pensez que biologiquement, physiologiquement, une expérience pareille peut être tentée sans supercherie?
En dehors évidemment du phénomène médical, oui, je le sais, mais tous les médecins vous diront non.
Oui, mais vous, personnellement, vous dites oui.
Je crois que
et
c'est
vous êtes médecin.
Je crois que c'est possible.
Bon.
Je crois que c'est possible parce que les choses ont été faites dans l'Inde et vous êtes bien placé pour affirmer, vous aussi, que ces choses-là se sont produites.
Ah, je n'ai pas vu d'enterré vivant pendant si longtemps.
Non, mais vous avez vu des choses qui valaient ça.
Oui, j'ai vu des
choses. Ainsi, la marche sur le feu.
Ah oui, ça c'est exact, la marche sur le feu.
Alors, quand on peut marcher sur le feu et ne pas se brûler, on peut bien se faire enterrer vivant et y rester 72 heures.
Voilà, vous connaissez maintenant les positions respectives des adversaires. Et pour le reste, comme on vient de vous le dire, c'est le public qui tranchera. Ce qu'on peut dire en tout cas, sans risque d'erreur, c'est qu'il y aura du sport à Lyon sur la place Bellecour dans 3 jours. Et j'espère pouvoir vous en apporter bientôt quelques échos.
Dans la série « Le monde comme il va », vous venez d'entendre « Lyon, ville secrète » par Samy Simon.
Cette émission réalisée par Marguerite Tarrère a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 17 mars 1954. À suivre, demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture. Et d'ici là, à réécouter en ligne ou à télécharger durant 1 an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».